Bon après-midi, mes sœurs. J'espère que tout le monde a bien mangé.
Oui.
Je suis ravie de pouvoir vous apporter ce deuxième enseignement dans le 16e psaume que j'ai intitulé « La plénitude de la joie ». Le philosophe britannique C.S. Lewis est célèbre pour avoir déclaré « Si nous nous retrouvons avec un désir que rien dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que nous sommes faits pour un autre monde. » N'est-ce pas vrai? Cela a certainement été le cas pour moi. Mettre Dieu au centre de ma quête de joie a contribué à réorienter ma vision de la vie chrétienne et à augmenter ma joie. Car j'ai appris que Dieu nous a créés pour nous délecter en lui. Ce matin, nous avons vu que des siècles auparavant, Saint Augustin avait dit quelque chose de similaire. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose pas en toi. Quand est la dernière fois que vous vous êtes senti agité, fatigué, insatisfaite ou mécontente? Ou avez-vous déjà souhaité que la vie soit plus simple, plus facile, moins marquée par la peine, le péché et le chagrin? Louis, Augustin et d'innombrables saints avant eux et depuis nous ont indiqué la joie, la satisfaction et le repos que nos cœurs désirent et que nous pouvons trouver que en Dieu. Ils ont également lutté contre des profondes souffrances et pertes et se sont élevés au-dessus du brouillard de leurs circonstances pour déclarer avec le psalmiste « À ta droite se trouvent des délices éternels ». Ce soir, cet après-midi, nous allons plonger dans un psaume qui répond à une question humaine fondamentale. Où se trouve la plus grande joie humaine? Que suggère la Bible concernant cette quête de repos, de bonheur, de paix, de satisfaction, d'épuisement, d'épanouissement, de plaisir, de délectation? Ou à l'envers, que prévoit l'Écriture pour nous aider à vivre à l'abri de la peur, de l'anxiété, de l'isolement, de la privation, du désespoir? Tout cela résume la quête de l'être humain et le cœur de Dieu pour nous en tant que ses enfants. À une époque où il est facile de se centrer sur nous dans notre foi, nous sommes nous-mêmes appelés à faire de notre plaisir en Dieu notre objectif. Et ce psaume nous aide à nous réorienter dans notre vision de la vie chrétienne. Et je vous promets qu'au lieu de vous priver de la joie et de la satisfaction en nous retirant du centre de l'équation, cela augmentera notre bonheur en nous apprenant que Dieu nous a créés pour que nous fassions nos délices en lui. Les précieuses vérités de ce psaume ont insufflé la vie dans le cœur des croyants à travers les générations et je prie pour qu'elles en soufflent dans la vôtre. Une passion renouvelée pour notre Sauveur Jésus-Christ. Voyageons ensemble, encore une fois, dans l'ancien Moyen-Orient pour rencontrer le poète par excellence d'Israël, David. Je vous invite à lire dans le psaume 16, commençant au verset 1. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne réponds pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, tes délices éternelles à ta droite. Prions. Tendre Père, merci pour ta précieuse parole. Je te prie maintenant qu'alors que nous allons plonger dans ce merveilleux passage de l'Écriture, que tu ouvres nos yeux afin que nous te connaissions et nous t'aimions davantage. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. J'ai divisé notre texte en trois sections. Faisons confiance à Dieu et rejetons les idoles. Choisissons la bénédiction et le contentement. Et suivons les conseils de Dieu et accrochons-nous à l'espérance éternelle. Si je devais résumer ce passage, le message principal de ce passage dans une phrase, elle serait ceci. Puisque le Fils de David ressuscité est notre refuge, réjouissons-nous de sa présence maintenant et éternellement. Puisque le Fils de David ressuscité est notre refuge, réjouissons-nous de sa présence maintenant et éternellement. Avant de plonger dans notre texte, j'aimerais mentionner que lorsque j'enseigne la Bible, j'aime aussi enseigner à mes auditrices comment découvrir certaines de ces perles pour elles-mêmes. C'est un peu comme lorsque je prépare un bon repas et j'ai des amis qui viennent souper chez nous et ils demandent « Oh, qu'est-ce que tu as fait ?» Et je leur explique la méthode que j'ai utilisée pour préparer un tel repas et puis ils me demandent la recette et je leur envoie après. Transmettre certains de ces principes pour que vous puissiez aussi creuser pour vous-même et tirer des trésors. Donc, alors que nous explorons ce passage, je vais essayer de nous expliquer ce que ce texte signifiait pour cinq personnages différents. David, en premier, l'auteur, le peuple d'Israël, ses premiers auditeurs, Jésus-Christ, l'accomplissement ultime de toutes les Écritures, l'Église universelle et nous en tant qu'individus. En outre, je vais vous poser des questions que je veux vous encourager à poser chaque fois que vous étudiez les Écritures pour vous-même. En anglais, on les appelle « the five W's and an H ». « Who, what, when, where, how, why and how ». C'est-à-dire « qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment ». C'est un bon outil pour chercher des vérités dans la Bible qui peut-être ne sont pas à première vue, mais qu'on retrouve en posant des questions d'exploration. Donc, pour commencer, une question serait, pourquoi David a-t-il écrit ce psaume? Pour replacer le psaume 16 dans son contexte historique, David est entouré d'une société idolâtre. Il fait face au compromis spirituel de ses compatriotes et il prend position pour Dieu. Cette prise de position s'inscrit dans la continuité du livre 1 du Psautier. J'avais dit tantôt qu'il y a cinq livres dans le livre des psaumes, et ce psaume est dans le premier livre, qui a comme thème l'intronisation de David et la persécution par ses ennemis. Et à travers ce psaume en particulier, David affirme deux choses. Premièrement, sa loyauté aux saints, ses frères et sœurs fidèles à l'Éternel. Et deuxièmement, le bonheur suprême qu'il trouve à la droite de Dieu, dans un lieu de faveur, de communion, d'intimité, de sécurité et de joie. La question suivante qu'on pourrait se poser est pourquoi David s'exprime-t-il ainsi? Parce que son cœur déborde de joie et de reconnaissance pour tout ce que le Seigneur est pour lui. Il utilise des images comme Dieu son refuge, son souverain bien, sa portion, sa coupe, celui qui assure son lot et son conseiller. Il ne peut se contenir, ni le dire en modération. Et il veut par ce poème répandre autour de lui une passion pour la gloire de Dieu. Ensuite, il convient de s'interroger, comment David développe-t-il cette pensée? Et c'est ici que nous entrons dans le texte, en commençant avec les versets 1 et 2, notre première section. Et j'avais intitulé ça « Confions-nous à Dieu et rejetons les idoles ». Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Ces paroles servent d'introduction au psaume. Et quel est le premier mot du premier verset? Le premier verbe? Garde-moi, exactement. On l'a vu tantôt dans l'autre psaume, n'est-ce pas? C'est une phrase récurrente. Et pourquoi est-ce que David demande d'être gardé? Parce que face à ses ennemis, David cherche la protection de Dieu, son refuge et son souverain bien. Et ce n'est pas une phrase trop utilisée dans nos jours. La seconde vingtième le traduit par « Tu es mon bien suprême ». Et dans la traduction anglaise que j'ai étudiée, cette phrase se traduit par « Je n'ai rien de bon à part toi ». Donc pour David, c'était ce qui découlait de lui, ce qui le passionnait, c'était cette relation intime avec le Seigneur. Et si nous passons maintenant de David à la nation d'Israël, que pensez-vous que ces mots aient pu évoquer pour eux? En méditant ce psaume, ceux qui sont restés fidèles à l'Alliance après la captivité babylonienne et le retour dans la terre promise auraient rejoint le sentiment de David à travers les différentes épreuves, les attaques des ennemis et à l'exil et l'occupation par des forces étrangères. Donc, pour reculer au moment, le livre de Psaume a été compilé dans sa version finale après l'exil, là où vous vous souvenez que Daniel et ses amis sont allés à Babylone. C'est seulement après l'exil qu'ils ont, probablement par Esdras, créé le psautier dans sa forme finale que nous avons aujourd'hui. Donc, les auditeurs du psautier en complet étaient ces fidèles qui avaient été fidèles à l'Alliance et qui étaient retournés dans la terre promise après avoir été exilés en Babylone ou bien après que leurs parents aient été exilés en Babylone. Donc c'est important de garder à l'esprit parce que ça c'est le contexte des auditeurs qui ont reçu le psautier dans sa version finale. Et si nous considérons ces paroles sur les lèvres de Jésus, est-ce que quelque chose nous vient à l'esprit dans la vie de Jésus? Il lui-même fait preuve d'une confiance et d'une dépendance totale du Père. Et tout au long de son ministère terrestre, il montre à ses disciples le plaisir qu'il prend en Dieu en passant des nuits blanches à prier et en se levant encore quand il était encore nuit pour chercher la face de Dieu. Et si nous pensons à comment cela parle à l'Église de Christ, nous pouvons nous dire que nous pouvons également chanter ce chant, ce cantique avec notre Seigneur, avec Israël et avec David lui-même. Convaincu qu'en union avec Christ, ces paroles sont tout aussi vraies pour nous que pour ce peuple ancien. Alors que sa nouvelle communauté d'alliance est confrontée à une persécution montante dans le monde entier, elle peut se confier à l'Éternel qui est le refuge de son épouse, l'Église. Et enfin, qu'en est-il de nous en tant qu'individus? Comment ces paroles illustrent-elles le cri de votre cœur, mes sœurs? Si nous sommes honnêtes, nous admettrons que certains jours, c'est vrai, et d'autres jours, on ne ressent pas cette affection, cette passion pour le Seigneur. Certains jours, Christ est notre seul refuge dans les tempêtes de la vie, et dans d'autres jours, nous endormons nos douleurs avec de la nourriture, de la boisson, du divertissement sans intérêt, une activité constante ou bien d'autres plaisirs mondains. Tout dépend de la saison de vie dans laquelle nous nous trouvons, n'est-ce pas? Personnellement, j'ai trouvé que ces paroles étaient plus vraies lorsque j'étais dans des sombres vallées. Et chaque fois que je cherche Christ dans mes moments de détresse, je constate qu'il est encore et encore mon plus grand bien, de loin. Et vous, seriez-vous d'accord pour dire que c'est souvent lorsque nous arrivons au bout de nous-mêmes que nous découvrons notre seul espoir et source de joie durable. C'est lorsque nous sommes coincés dans une impasse que nous nous tournons vers Dieu souvent. Dans la mesure où cela ne reflète pas votre réalité, que ce psaume vous pousse à vous sert d'invitation à vous emparer de ces vérités par la foi, pour que Christ redevienne notre refuge et notre souverain bien. Au verset 3 et 4, David développe sa description du bonheur éternel avec les contrastes suivants. Oups. Oh. Désolé. Les saints qui sont dans le pays, les pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles. On court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. En raison du bonheur éternel que David trouve en Dieu, il exprime une affection intense pour les saints. Et qui sont-ils? Il est captivé non seulement par son amour pour Dieu, mais aussi pour une passion pour les voies de la justice. Et il est tellement passionné qu'il considère qu'une partie essentielle de sa marche avec le Seigneur, c'est de s'entourer avec ceux qui partagent cette conviction que l'Éternel est le seul et unique Dieu. C'est pourquoi David oppose son amour pour les frères et sœurs fidèles avec son mépris pour les idolâtres. Et il ne s'agit pas d'idolâtres en général, mais plus précisément des Israélites syncrétistes, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui prétendaient suivre le Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tout en courant auprès d'autres dieux. David ne veut rien savoir de eux, ni prononcer leur nom. Et si on pense à comment ceci parle à ceux qui ont reçu ce psaume dans sa version finale, si je disais tantôt qu'ils étaient ceux qui étaient revenus de l'exil, comment pensez-vous qu'ils auraient interprété ces mots opposant les saints aux idolâtres? Ils auraient considéré la parole de David à la lumière de l'exil et de leur retour dans la terre de leur héritage. Vous souvenez-vous de la raison pour laquelle ils étaient partis en exil? Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé le peuple d'Israël en Babylone? La désobéissance, c'est ça. Ils étaient des idolâtres. Ils avaient mélangé l'adoration de l'Éternel avec l'adoration des dieux païens. Ces paroles auraient dû être un défi pour le peuple d'Israël alors qu'ils réfléchissaient à leur propre choix. Choisiraient-ils de suivre le Dieu saint en demeurant parmi un peuple saint ou laisseraient-ils l'idolâtrie se répandre comme un fléau sur leur pays et permettant de les détourner des voies de la justice et de l'alliance? Et si nous venons à Jésus-Christ, notre Seigneur, nous savons bien sûr qu'il se réjouissait de la compagnie de ses disciples bien-aimés. Nous savons aussi qu'il a également accueilli et mangé avec des pécheurs, sans jamais compromettre sa sainteté pour cela. Mais ceux dans lesquels il a le plus investi, dans lesquels il a passé le plus de temps, c'était ses disciples. C'est sur eux qu'il a misé et qu'il s'est appuyé même au plus fort de la tentation. Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce que le Seigneur a été le plus tenté et quand est-ce qu'il a compté sur le soutien de ses disciples? À Gethsémané, exactement. Et comment cela s'applique-t-il à nous en tant qu'Église? En vivant comme le peuple choisi par Dieu, une nation sainte, une sacerdoce royale, tel que décrit dans 1 Pierre 2:9. Je pense qu'on a chanté tantôt, n'est-ce pas? Et c'est le défi que ce passage nous lance aujourd'hui. Allons-nous aimer et cultiver la sainteté au sein de nos communautés de l'Alliance ou allons-nous sacrifier notre éthique sur l'autel de la pertinence et de l'acceptation de ce monde? Nous devons prier pour que nos églises et nos pasteurs et nos leaders et nos serviteurs reste ancré dans la vérité et la grâce face aux défis de notre génération. Eh bien, si on pense à nous en tant qu'individus, quel genre de compagnie dois-je entretenir? Jésus ne nous a pas appelés à être des ermites et à quitter ce monde, à vivre isolés. Mais nous devons aussi garder à l'esprit les paroles de Jacques 4, 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Comment allons-nous éviter l'amitié du monde dont parle Jacques? En cultivant des relations de personnes pieuses. Et je dois admettre que depuis la pandémie, cela est devenu difficile, plus difficile pour certains d'entre nous, car il est facile de devenir antisocial, d'aller au boulot, de rentrer fatigué et de laisser tomber les rencontres entre frères et sœurs. Mais scroller sur Facebook et s'envoyer un SMS de temps en temps ne peut jamais remplacer la communion face à face dont nous avons tant besoin. Surtout si nous voulons éviter de tomber dans l'idolâtrie contre lequel David nous avertit. Et ce qui est difficile pour nous en Occident, c'est que l'idolâtrie est si subtile. Quand j'étais au Sénégal, il y avait littéralement des endroits où les animistes offraient des animaux en sacrifice à leurs fétiches. Mais ici, on est dans un contexte beaucoup moins explicite. Pour l'époque de David, c'était aussi clair comme l'eau de roche. Les Juifs offraient littéralement des sacrifices aux dieux païens et parfois, ils offraient même leurs propres enfants sur ces autels. Mais qu'en est-il de nous? Quelles sont, selon vous, les idoles de notre génération? Pensez-y un instant. Quels sont les endroits, les activités, les choses que nous pouvons laisser devenir des idoles? Oui, on peut permettre que les téléphones, les réseaux sociaux, les influenceurs sur les réseaux sociaux, les stars de Hollywood, les athlètes professionnels et les politiciens deviennent nos idoles. Nous faisons même des idoles des théologiens et des pasteurs et même de nos propres pasteurs. Et de plus en plus, nous prosternons pas devant des images taillées comme faisait le peuple d'Israël et des nations païennes, mais nous inclinons nos cœurs vers les idoles du matérialisme, de la réussite professionnelle, de la technologie, de l'image de soi, des relations, de l'idéologie politique, des loisirs, du confort, de la sécurité, de l'approbation et du patriotisme même. C'est pourquoi nous avons besoin les uns des autres, en tant que frères et sœurs en Christ, et de la force de l'Esprit pour nous aider à identifier et à abattre ces idoles qui menacent notre foi. Fortifions-nous les unes les autres avec la vérité que ce psaume nous enseigne. Puisque le Fils de David ressuscité est notre refuge, réjouissons-nous de sa présence maintenant et éternellement. Jusqu'à présent, dans la première partie de ce psaume, nous avons été invités à faire confiance à Dieu et à rejeter les idoles. Passons maintenant au verset 5 à 7, qui nous propose que nous choisissions la bénédiction et le contentement. L'Éternel est mon partage et ma coupe. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Regardez avec moi au verset 5, si vous avez vos Bibles devant vous. Comment David décrit-il le plaisir qu'il trouve en Dieu? En quel genre de terminologie? Quelle image est-ce qu'il utilise? Au verset 5. Je me focalise sur le fait qu'il parle de Dieu comme sa portion, n'est-ce pas? Il utilise des termes gastronomiques. Et il compare l'éternel en fait à son repas préféré. Et il ne le prend pas à sec, mais ni avec de l'eau tiède. Sa coupe, sa boisson préférée, probablement du bon vin, j'imagine, l'accompagne. Quand on y pense, on se dit que David a dû être un fin gourmet pour décrire Dieu de cette manière. Et David ajoute au verset 6 que Dieu est son héritage, son bien le plus précieux. Si vous considérez cette expression « héritage » à la lumière du déroulement de l'histoire de la rédemption, à quoi est-ce que ce terme « héritage » vous fait penser quand ça vient de la plume ou des lèvres de David? Qu'est-ce que Dieu avait promis à David? Oui, qu'il serait roi et qu'il aurait toujours un descendant sur son trône, n'est-ce pas? Ça, c'était son héritage par excellence. Cependant, David emploie le langage de l'alliance et son lien avec la terre promise même, parce que l'alliance abrahamique, celle qui précède l'alliance davidique, parlait de la promesse à Abraham et à ses descendants qu'ils auraient la terre de Canaan comme possession, n'est-ce pas? Donc, David se réjouit de l'Éternel plus que de son propre royaume, plus que de la terre qui lui avait été accordée en héritage, ou bien de toute bénédiction matérielle qui pourrait l'accompagner. Les palais, les chevaux, les chars, les terres, tout était deuxième parce que l'Éternel était le premier trésor de son cœur. La Bible du Semeur traduit ce verset de manière très vivante. Tu as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Son héritage le plus précieux, dans lequel il trouve ses délices, est l'intimité, l'amitié, la communion avec l'Éternel. Certains d'entre vous ont déjà eu l'insomnie. Moi, je fais non seulement le décalage horaire, mais aussi la périménopause m'occasionne pas mal d'insomnie. Et je pense que David peut-être a dû en connaître parce qu'il parle du fait que la nuit, il cherche Dieu. Vous voyez au verset 7 ce qu'il dit. Il parle du fait que Dieu est son conseiller, qu'il accompagne même la nuit. Il compte sur Dieu pour le conseiller et pour lui donner la sagesse dont il a besoin pour régner sur le peuple d'Israël. Puis, si on pense à Israël, comment est-ce que ces paroles parlent de la nation? Dès sa naissance, Dieu lui a promis une terre, un héritage, où coule le lait et le miel. Deux aliments symbolisant l'abondance et la générosité de l'Éternel. Et ces paroles du psaume 16 auraient réaffirmé à la nation que si le lait et le miel, comme la coupe, et le bon repas promis sont un don précieux de Dieu qui garde l'alliance avec son peuple. Sa présence même au milieu d'eux est le plus grand cadeau qu'ils puissent jamais recevoir. Ils avaient appris la leçon pendant l'exil, que même s'ils étaient loin du temple, de la terre promise, de ce lieu où la présence de Dieu était manifestée dans le lieu très saint, tant que l'Éternel était avec eux, ils possédaient le plus grand trésor. Et Dieu était bel et bien avec eux pendant l'exil, n'est-ce pas? Quant à la manière dont ces mots parlent de Christ, Jésus a incarné cette dévotion singulière à l'Éternel tout au long de sa vie. Mais il l'a parfaitement exprimé lorsqu'il dit en Jean 4:34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et lui aussi, comme David, son père, a recherché le conseil de Dieu tout au long de son ministère, depuis la sagesse dont il avait besoin au début de son ministère pour choisir les disciples qui seraient avec lui pour les 3 ans, jusqu'à la force dont il avait besoin pour aller jusqu'au bout, à la croix, et cette nuit blanche de prière à Gethsémané. Et en ce qui concerne son épouse, l'Église, quelle plus grande image de joie et d'affection que celle d'avoir Christ comme notre époux éternel. En tant que corps, nous nous réunissons les dimanches pour exprimer notre faim, notre soif de son retour et pour rechercher le conseil de Dieu dans la prière, dans les Saintes Écritures. Et je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais je crois que nous avons plus que jamais besoin de son conseil pour mener à bien la mission qu'il nous a confiée de faire de toutes les nations des disciples. Et il en va de même en tant qu'individu, pour nous en tant qu'individu. Moi, vous avez déjà entendu que j'aime manger. Et je pourrais parler de la nourriture pendant des heures. Et ma fille Isabella et moi, nous nous sommes déjà régalés de la gastronomie française. Et j'ai hâte de découvrir plein d'autres plats dans les jours qui nous restent avant de rentrer au Canada. Mais j'aspire à ce que mon plus grand plaisir se trouve en Christ. Et lorsque je constate que ce n'est pas le cas, le remède pour moi pourrait être de jeûner et d'exprimer mon désir pour lui de plus en plus. Parce que je ne veux pas que ma plus grande faim soit pour rien d'autre que lui. Je veux que ma plus grande faim soit pour que son règne vienne et pour que sa volonté soit faite. Puisque le fils de David ressuscité est notre refuge, réjouissons-nous dans sa présence maintenant et éternellement. Pour résumer, au verset 1 à 4, David nous invite à faire confiance à Dieu et à rejeter les idoles. Ensuite, au verset 5 et 6, il nous exhorte à choisir la bénédiction et le contentement. Et maintenant, dans la troisième partie, il nous invite à suivre les conseils de Dieu et à garder l'espoir. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il était à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Est-ce que dans ce passage que je viens de lire, vous pensez à un texte du Nouveau Testament qui cite ce passage? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Quelqu'un saurait me dire quand est-ce que dans le Nouveau Testament cela a été cité? Oui. Exactement. Merci, exactement. Ça parle de Pierre qui, le jour de la Pentecôte, en acte 2, versets 25 à 28, a proclamé que ces paroles étaient une prophétie de Jésus-Christ. Et puisque cette section est citée dans le Nouveau Testament, la tentation serait de sauter directement et prier en conclusion et on prend le goûter. Mais attendons un peu. Je vais plutôt poursuivre le modèle que je vous ai déjà montré pour que nous puissions examiner comment ce texte s'adresse à chaque groupe que nous avons étudié. Commençons par David. Nous voyons au verset 8b qu'il parle de l'assurance qu'il tire du fait d'avoir l'Éternel à sa droite. Dans la Bible du Semeur, la note explique que la main droite est l'endroit où se tient le défenseur d'un accusé. Le roi choisi par Dieu savait que Dieu était son avocat devant tous ceux qui remettraient en question son droit de régner sur le peuple d'Israël. Et il y en avait pas mal qui accusaient David de ne pas être le roi légitime. C'est pourquoi il ajoute au verset 9 qu'il est rempli de joie et de sécurité. Les ennemis de David ont cherché à le faire mourir prématurément. Mais il exprime au verset 10 sa confiance dans le fait que l'Éternel ne l'abandonnera pas dans leurs mains. Et la relation intime qu'il partage avec Dieu ne prendra pas fin lorsqu'il rendra son dernier souffle. Car l'enveloppe de son être demeurera dans le séjour des morts, mais il a un espoir au-delà du tombeau. Et au verset 11, il nous dit que l'Éternel le conduira à la vie éternelle en sa présence, où il jouira pleinement des plaisirs qu'il n'avait goûté qu'en partie avant, à la droite de Dieu. Ce terme apparaît pour la deuxième fois dans ce verset, et dans la première fois au verset 8, ça décrit la présence protectrice de l'Éternel tout près de David. Et dans cette deuxième fois, ça décrit le faveur, la place d'honneur que David trouve tout près de l'Éternel lui-même. Ensuite, si nous pensons au reste fidèle de la nation d'Israël, ils auraient trouvé dans ces versets l'assurance qu'en tant que peuple choisi, ils seraient finalement délivrés de leurs ennemis et entreraient dans leur repos éternel. L'alliance abrahamique le promettait, tout comme l'alliance davidique. Donc l'alliance abrahamique leur promettait une terre, mais aussi une terre au-delà. C'était prévu, c'était comme une ombre. Mais nous savons que Dieu leur avait promis un repos qui attendait encore la venue de Jésus-Christ. Et l'alliance davidique leur promettait un roi qui régnerait pour toujours. Et David n'avait pas de fils sur le trône au moment de l'exil et du retour de l'exil. Donc ils attendaient encore l'accomplissement de cette promesse. Et c'était le fils de David, éternel, qui régnerait pour toujours sur le trône de son père. Et pendant l'exil, sous la domination étrangère, le reste fidèle s'est accroché à ses paroles comme à une promesse faite à eux en tant que peuple. Et si nous passons à Jésus, nous voyons à la fois l'incarnation parfaite et l'accomplissement ultime de ses paroles. Sa vie a été guidée par l'Éternel qui était son défenseur devant ses accusateurs, ses ennemis. Le tombeau vide a été sa justification devant eux et l'accomplissement de la promesse qui avait été écrite si longtemps auparavant par David. Au sens le plus littéral du terme, notre Sauveur ressuscité n'a pas connu la décomposition. Comme tu as dit, Pierre a dit que Jésus est ressuscité 3 jours après et que son corps n'a pas été corrompu comme celui de David. Il est ressuscité des morts et il est monté à la droite du Père, où il retrouva la joie et le plaisir et l'intimité dont il avait joui avec le Père dans l'éternité infinie du passé. En ce qui concerne l'Église, nous pouvons nous aussi être assurés qu'il est notre défenseur. En effet, nous avons aussi un ennemi. En Apocalypse 12, 10, il est appelé l'accusateur des frères. Et nous avons aussi un grand souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ, qui vit toujours pour intercéder pour nous, comme dit Hébreux 7, 25. Bien sûr, jamais Jésus n'a promis que son Église ne souffrirait pas de la persécution. Au contraire, l'Écriture nous donne la certitude. Mais il prononce ces paroles d'assurance dans Matthieu 16, 18. Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et un jour, glorieux, nous nous rassemblerons autour du trône en tant que rachetés de tout peuple, toute langue et toute nation. Et nous adorerons l'agneau qui a été immolé, selon Apocalypse 5, 9. Et cela, messieurs, remplira nos cœurs d'une joie débordante. J'ai tellement hâte. Enfin, si on pense à nous en tant qu'individus, comment est-ce que ces promesses parlent? Nous avons vu précédemment qu'ils s'appliquent à l'Église. Et ces versets ont beaucoup à nous dire en tant qu'individus aussi. Ils nous attirent notre attention sur notre Sauveur ressuscité, notre ultime source de plaisir, de joie, de sécurité et de paix et de repos face à des accusations de l'ennemi devant la perspective de la mort elle-même. Notre espoir repose sur celui qui plaide en notre faveur. Et si la vie dans ce monde déchu est parfois accablante, nous pouvons nous réjouir de l'éternité à la droite de Dieu. Quelle joie, quel jour ce sera! De plus, nous avons à nous réjouir de la résurrection de la chair. Après tout, nous n'allons pas être comme des petits anges volant sur des nuages, en jouant une harpe, comme des esprits désincarnés, grâce à la résurrection corporelle de Jésus, nous aussi allons recevoir des corps glorifiés. Et c'est la promesse de ce psaume pour nous. Nous allons avoir des corps qui ne pourront jamais être corrompus et qui vivront éternellement. J'ai récemment fait une visite pastorale avec mon mari qui sert en tant qu'ancien à notre église pour rendre visite à un frère qui était très malade, très âgé à l'hôpital. Je venais de passer toute la journée à étudier ce psaume et il était donc frais dans mon esprit. Ce soir-là, nous nous sommes réunis autour de son lit de malade avec sa femme. Et nous avons chanté et prié avec eux. Et elle était confrontée à la difficile décision de savoir quoi faire alors que son bien-aimé semblait s'approcher de la fin. Diane m'a demandé de lire quelques versets de la Bible et je me suis naturellement penchée vers le psaume 16. Je n'avais que 5 minutes pour condenser le cœur de ce passage pour un homme qui allait bientôt apparaître auprès de son maître. Je parlais de l'espérance de notre résurrection, enracinée dans le fait que la résurrection de Jésus-Christ entre les morts nous garantit une place à sa droite, où nous jouirons de la grâce et la joie de l'aimer et de le connaître. Je les ai rassurés en leur disant que la mort ne pourrait pas enlever cette joie. Quel privilège d'avoir pu partager cette précieuse promesse pour nous, qui était si fraîche dans mon esprit alors que j'allais à l'hôpital ce jour-là. Est-ce que vous avez déjà accompagné quelqu'un sur son lit de mort? Ou bien est-ce que vous avez récemment assisté à un funérail? Cela peut sembler étrange, mais je pense que passer du temps dans de tels contextes est bon pour l'âme. Nous avons beaucoup à apprendre à accompagner quelqu'un dans ses derniers moments ou en les voyant reposer en terre. Cela devrait nous émouvoir de penser qu'un jour, les gens auront un service de ce type pour nous-mêmes. Un jour, mon corps et le vôtre reposeront également en terre, à moins que Christ ne revienne. La raison pour laquelle nous devrions permettre à notre esprit d'envisager ce jour-là est que cela devrait nous inciter à vivre chaque instant de notre vie avec la fin en vue. Comment cela affectera-t-il la façon dont nous vivons notre vie chrétienne aujourd'hui? Comment cela affectera-t-il les décisions que nous prenons concernant l'avenir? Le fait de penser à la tombe devrait également nous inciter à nous rappeler que le temps que nous passons ici est court, la mort nous touchera tous et seul Dieu peut nous préserver de la mort. David avait cette certitude. Et il nous a écrit un magnifique poème ou bien un chant pour partager cette espérance avec nous. Et comment nous préservera-t-il, autrement dit, comment délivrera-t-il ses fidèles de la mort, corps et âme? Nous allons tous mourir, mais ceux qui mettent leur confiance en Jésus seront ressuscités. Et la mort de Christ pour nos péchés et sa résurrection au troisième jour nous rassure notre propre victoire sur le tombeau. Si vous êtes ici aujourd'hui et vous n'avez pas encore mis votre confiance dans le Sauveur ressuscité, n'attendez plus. Venez me parler avec une des femmes qui organise cette conférence ou à l'ami qui vous a invité. Ne quittez pas cet endroit ce week-end sans avoir réglé la question de votre espérance éternelle. Puisque le Fils de David ressuscité est notre refuge, réjouissons-nous de sa présence, maintenant et éternellement. Amen.
Amen.
Je voulais seulement vous partager que si vous voulez suivre mon ministère, je suis sur Facebook, Angie Velasquez Thornton, et j'aime avoir beaucoup d'amis si vous voulez m'ajouter comme votre ami. J'ai ma chaîne YouTube, c'est simplement Angie Thornton, et j'ai des vidéos des enseignements que j'ai donnés. Donc, je filme, ma fille vient de me filmer, donc je mets ça sur ma chaîne YouTube. Et il y a d'autres sœurs aussi qui ont fait des études avec moi, été dans des formations avec elles, et on fait des enseignements dans Philippiens, Actes des Apôtres, l'Évangile de Marc, et Je suis blogueur à Tout pour sa gloire avec Aurélie Bricot. Et on a un podcast qui s'appelle Chrétienne. Et ça sort chaque mardi. Et on vous invite à vous abonner. Merci.